Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai parlé ces dernières semaines des musées modernes d'art contemporain et de leur contenu. On va aujourd'hui changer totalement de sujet. En effet, je vais vous parler de la pyramide de Khéops, appelée la Grande Pyramide en Égypte. Ce bâtiment est un bâtiment totalement extraordinaire parce qu'il a été construit il y a 4500 ans et il a tenu le record du bâtiment le plus haut du monde jusqu'à une date tout à fait récente. Bon, c'est le bâtiment, bon, c'est la Tour Eiffel pour l'exposition universelle de 1889 qui l'a détrôné avec une hauteur qui est à peu près le double. Et ensuite, au cours du XXe siècle, il y a eu aux États-Unis, à New York et à Chicago, ce que l'on appelait des gratte-ciels. Et aujourd'hui, le bâtiment le plus haut du monde est à Dubaï. Voilà, donc ce qui est tout à fait étonnant, c'est que un bâtiment de cette civilisation qui est la civilisation pharaonique de l'Égypte ancienne, une civilisation qui a duré 3 millénaires et même plus, et que nous soyons parvenus, on peut dire, dans un état assez intact, cet édifice qui est, comme tout le monde le sait, est un bâtiment funéraire, mais de dimension tout à fait extraordinaire, puisqu'il faisait partie des sept merveilles d'Égypte, enfin des sept merveilles du monde, pardon, et c'est la seule qui est maintenue jusqu'à nos jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment suscite depuis toujours des interrogations sur la manière dont il a été construit. Alors depuis, vous le savez, on a découvert, Champollion a découvert le secret de l'écriture égyptienne des hiéroglyphes, et on n'a jamais trouvé dans les récits, on n'a jamais trouvé dans les dessins non plus, que l'on a pu trouver dans les fresques, notamment des tombeaux qui ont été découverts tout au long du siècle. On n'a jamais trouvé ni un récit, ni un dessin de savoir comment la pyramide a été construite. Alors, c'est un double mystère, puisqu'en fait, ce n'est pas la seule pyramide qui a été construite dans le monde. Les Égyptiens construisaient, puis on sait aussi qu'à une époque tout à fait différente, les civilisations de l'Amérique du Sud, les Incas notamment, construisaient des pyramides, mais dont la hauteur n'avait rien à voir. Alors évidemment, il y a tout autour de cela, des mythes, des récits incroyables, et le mystère central étant la manière dont on a pu construire dans une époque où on ne connaissait pas, évidemment, l'attraction mécanique qui permet de construire aujourd'hui des bâtiments jusqu'à 800 mètres de haut pour la tour de Dubaï, qui est la plus haute du monde. Mais à part l'époque moderne, où on a l'électricité, les différents moteurs et les éléments de levage, on n'avait uniquement que la force humaine et éventuellement des appareils de levage, mais toujours actionnés par la force humaine ou éventuellement par la force animale, mais ça n'allait pas très loin. Donc, on a aussi des exemples de bâtiments qui ont été dans cette course à la hauteur. On a parlé ici des cathédrales gothiques. La cathédrale de Rouen, avec sa flèche, est à peu près à cette hauteur, la cathédrale de Strasbourg aussi, Saint-Pierre de Rome, là aussi, grâce à sa flèche, est un peu moins que la pyramide. Mais enfin, ce qui est étonnant, c'est que la pyramide, comme je vous disais, a franchi les millénaires et elle est, on peut dire, intacte. Alors, le plus surprenant, c'est que même si la forme de la pyramide est la forme la plus statique et la plus stable qui soit, il est surprenant qu'il y ait eu, dans une période aussi longue, il y a eu des tremblements de terre et des séismes tout au long de l'histoire, et certaines pyramides, par exemple, ont été éventrées, ce qui a été le cas de beaucoup de grands édifices au cours de l'histoire. C'est-à-dire, il y a le temps qui fait, justement, qui fait naufrager ces bâtiments, et les pyramides égyptiennes ont pu s'ouvrir, ont pu être déformées. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la pyramide de Khéops n'a pas du tout bougé, et elle est restée sur son socle avec absolument pas de modification. Donc il y a tout un mystère sur justement cette stabilité, mais évidemment le mystère est sur la manière dont on a pu monter à une hauteur de 150 mètres des pierres aussi importantes, et notamment au cœur de la pyramide, la chambre funéraire qui est construite avec des monolithes, des pierres d'un seul tenant, en granit, qui font près de 30 tonnes, et un assemblage donc au cœur de la pyramide. Donc si elle fait 150 mètres, vous voyez le cœur de la pyramide, à quel niveau il se situe, 75 mètres, donc comment on a pu élever des pierres à cette hauteur. Alors, pour que l'on soit bien clair sur ces dimensions, 150 mètres de hauteur, c'est un immeuble de 50 étages et la base est de 130 mètres. Alors, aujourd'hui, on prend des mesures qui sont les stades pour comparer, mais c'est assez imbécile, puisque la dimension d'un stade de foot est quelque chose de variable. Donc, je vais vous faire une image toulousaine en vous disant que un carré de 230 mètres, c'est, si on le met sur le centre-ville de Toulouse, ça fait les Augustins, l'hôtel d'Assesa, l'église de la Dalbade, les Carmes. Vous voyez, donc là, dans cet espace, on rentre la base de la pyramide. Vous voyez, c'est gigantesque. Et sur le plan de la hauteur, ça ferait 150 mètres, ça ferait la flèche de Saint-Sernin, 2,5 fois cette hauteur. Donc, évidemment, c'est quelque chose d'absolument phénoménal en tant que volume et hauteur. Donc, ça ne fait qu'épaissir le mystère. Alors, il y a eu, sur les explications de la construction, tous les délires possibles. Vous avez entendu qu'on a pu penser que c'était le mythe de l'Atlantide, c'est-à-dire une civilisation encore antérieure qui aurait pu transmettre des secrets parce qu'elle elle avait atteint un niveau de technicité qui était semblable à notre XXe siècle. Donc il y a aussi les extraterrestres qui auraient pu expliquer cela. Puis après, il y a des explications que l'on connaît à travers le cinéma, dans un fameux film La Terre des Pharaons, où on voit des esclaves qui sont fouettés, tirant sur des plans inclinés, ces énormes pierres avec des rondins. Bon, c'est, disons, les explications qui sont les plus classiques pour expliquer cela. Après, il y a eu aussi des explications assez fantaisistes, dernièrement, avec une explication que Il ne s'agissait pas de pierres, mais de pierres reconstituées. C'est-à-dire que les Égyptiens anciens avaient trouvé une formule de fer avec de la chaux et du mortier qu'ils possédaient et du sable, de faire, de reconstituer des pierres. Donc on avait un cheminement de sable et d'eau et de mortier, et on constituait, en laissant sécher au soleil, des pierres que l'on assemblait sur le site. Alors bien sûr, c'est une fantaisie technologique, et évidemment qui n'explique absolument pas cela, puis c'est évidemment totalement impossible. On a eu aussi des histoires de flottaison avec des outres, donc l'Internet fait des petits films sur ces théories qui évidemment aucune n'explique comment on est arrivé à monter cela. Alors, il y avait eu les théories que l'on a pu voir en image, c'était des plans inclinés. Alors, des plans inclinés, pour monter à 150 mètres, ça fait un plan. Si on fait une inclinaison qui soit vraisemblable, ça fait des kilomètres. Et disons que le plan incliné demanderait encore plus d'efforts que la construction de la pyramide. Donc c'est le serpent qui se mord la queue et on n'arrive pas à trouver la solution du plan incliné. Alors on a eu aussi une spirale qui montait tout autour de la pyramide, avec le problème de monter les pierres sur les angles, et on ne voit pas comment on aurait pu pousser avec une masse d'hommes qui aurait pu prendre les tournants pour arriver à cela. Alors il y a l'explication qui est, paraît-il, qui serait la plus vraisemblable, qui serait une rampe intérieure. Donc d'assaut système avec un architecte qui s'appelle Houdin qui a théorisé une rampe intérieure. Mais le problème de la rampe intérieure ne résout absolument pas le problème parce qu'on ne voit pas très bien. Là j'ai vu les films qui passent régulièrement sur RMC et c'est quand même pas très convaincant parce qu'on ne voit pas du tout comment les pierres peuvent tourner et monter à une hauteur pareille avec une rampe intérieure. Alors, de plus, il n'y a aucune preuve de cette rampe et on ne voit pas du tout comment elle peut être montée jusqu'à cette hauteur. Voilà, donc je vais, dans la seconde partie de l'exposé, pas vous donner ma solution, mais réfléchir sur justement pourquoi on n'a pas eu la solution pour trouver quelle était la manière dont on a construit jusqu'ici la Grande Pyramide. On marque une pause musicale et on va reprendre. Thank you. Christian Jacques, qui est un auteur qui a vulgarisé les récits sur l'Égypte ancienne, d'une forme romanesque, a écrit un livre où j'ai construit la Grande Pyramide, où là, il fait parler l'architecte. Alors, il reprend la fameuse thèse de la rampe intérieure, et le récit montre les hésitations d'un architecte, un jeune architecte, face à cette construction où il trouve par tâtonnement le résultat. Bon, il faut dire que c'est totalement invraisemblable parce que l'histoire des hommes ne change pas et que la relation qui existe entre un architecte et un maître d'ouvrage est quelque chose qui est éternel et qui ne bouge pas tout le long de l'histoire. Pourquoi je dis cela? Parce que pour faire un projet aussi ambitieux, aussi coûteux, qui nécessite autant de déploiement de main-d'œuvre et d'énergie et de coûts de matériaux, il fallait évidemment une organisation militaire, comme c'est le cas sur les grands chantiers, et il fallait auparavant avoir défini exactement toutes les phases de cette organisation. Ça ne s'improvise pas sur place. Il faut penser aussi qu'il s'agit du tombeau du pharaon et que ce n'est pas du tout un bâtiment qui peut durer des siècles et qui est ajouté. Alors, il faut dire que les grands temples égyptiens étaient justement construit par étapes avec une grande continuité dans le temps, à la différence des tombeaux qui étaient, par leur destination même, construits pendant la vie du souverain et évidemment, c'est-à-dire qu'il fallait anticiper sa mort et le souverain surveillait et voyait son tombeau qui se construisait. Alors, une des premières questions, c'est de penser quelle était la raison de chantier aussi exceptionnel pour faire des tombeaux. Eh bien, la raison, je vous donnais mon explication, c'est que quand on construit un palais, l'exemple de notre pays, la France, c'est Versailles et Louis XIV qui crée la France, on peut dire, moderne, unifiée et qui tue la féodalité et cette répartition de pouvoir au niveau de l'État en faisant un pouvoir central à travers l'architecture et tout le décorum artistique qui est autour, qui amène justement à cette centralisation, on pourrait dire, de l'État moderne. Simplement, le problème de ce type de construction qui est le palais du roi, il est conçu pour le roi et il atteint son but et son objectif, puisqu'il sert de modèle d'ailleurs dans le monde entier, mais que le successeur, en l'occurrence Louis XV, et le successeur suivant, Louis XVI, vous savez comment il a terminé, c'est-à-dire qu'ils vont loger dans le palais du père et du grand-père. Donc il n'y a pas dans la transmission dynastique, on ne recommence pas comme va faire le pharaon avec son tombeau. Dans la grande question que se posent toutes les civilisations, c'est de perdurer. Et l'exceptionnelle longévité de la civilisation égyptienne, cette civilisation exceptionnelle qui a duré plus de 3000 ans, elle tient justement à des processus malins, artificiels, et le fait que on recommence chaque fois une espèce de jour sans fin où on recommence le processus, c'est-à-dire que une fois le pharaon, une fois le tombeau achevé, le pharaon défunt est enterré, le nouveau pharaon commence lui-même ce même travail qui va être un fédérateur des forces du pays, quelque chose qui va occuper et symboliser le pouvoir. Donc, il y a dans ce choix justement dynastique de répéter chaque fois la même relation qui va aboutir à la continuité et à la permanence de cette civilisation. Donc c'est mon explication qui n'est pas évidemment dans une sensiblerie liée à la mort, mais un but pratique, ce qui n'empêche pas évidemment l'instrumentalisation du pouvoir religieux, du dieu, enfin tout ce que l'on sait par rapport à cette civilisation. Mais le support matériel est celui-là. Alors, la question que l'on peut se poser, c'était pourquoi n'a-t-on pas trouvé jusqu'ici manière dont la pyramide a été construite. Alors je vous disais que l'architecte propose un projet, et dans le cas présent, il l'a parfaitement chiffré en temps, certainement il l'a budgétisé, il savait exactement dans son planning de chantier, il ne partait pas à l'aveuglette. Et il vend, on peut dire, entre guillemets, au pharaon quelque chose qu'il ne s'est jamais fait et que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Il va vendre une pyramide lisse. Parce qu'en fait, la pyramide, si on ne le voit pas aujourd'hui, parce qu'il n'y en a que quelques parties qui ont été maintenues, je vous parlais de la solidité, mais c'était un revêtement de calcaire, c'est-à-dire que les pierres formaient une sorte d'escalier quand on les monte en pyramide, et le triangle de l'escalier est une face lisse, et c'était donc il y a du granit dans la chambre du funéraire, il y a un calcaire dur qui est celui des blocs, et puis il y a un calcaire blanc tendre qui fait une surface totalement lisse, c'est-à-dire que on a un objet totalement lisse dont on ne voit pas du tout comment il était construit, puisqu'on ne voit quasiment pas les joints entre les pierres. On a l'effet en fait d'un bâtiment d'aujourd'hui, de ce qu'on appelle un murido, en fait une surface lisse que l'on fait avec du métal ou du verre aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose d'absolument étonnant, et ça renforce encore le questionnement de la construction. Donc les histoires de pyramides, de rampes intérieures, évidemment ne fonctionnent pas. Comment on a pu accrocher ces pierres triangulaires en section sur l'escalier des pierres pour avoir une surface totalement lisse? Alors ça, ça ne fait qu'accroître le mystère, et encore une fois, c'était évidemment prévu d'avance. C'est-à-dire que le bâtiment, on ne voit pas du tout comment il est fait. Donc ça a renforcé le mystère, et je pense que le but religieux, mais aussi les grands princes, il faut entourer ce que l'on fait du mystère de la conception. Et là, c'est parfait. En fait, les bâtiments jusqu'ici montraient la manière dont ils étaient réalisés. Il y avait les ziggourats, c'était une spirale qui montait dans un bâtiment de base carrée ou de base ronde, ces grands bâtiments de la Mésopotamie, de l'Antiquité, et la plupart des bâtiments on voit comment ils sont construits. Et je vais faire une analogie de quelque chose qui est exactement l'inverse de la pyramide, c'est l'iPhone. Avant l'iPhone de Steve Jobs, on avait des téléphones, souvenez-vous, à clapet, avec des touches, et ça devenait de plus en plus compliqué. C'était les tableaux de bord où les téléphones les plus perfectionnés qui s'ouvraient, on avait une grande difficulté avec toutes les touches, et ça demandait une stratégie de compréhension par rapport à cela. Le génie de Steve Jobs, c'est de prendre exactement l'opposé, de faire un galet qui étaient les premiers iPhones qu'on ne pouvait pas ouvrir et qui cachaient à l'intérieur son mystère, et il suffisait d'y mettre le doigt, il n'y avait pas une touche de visible. Donc en fait, la pyramide, c'est une sorte d'iPhone qui a été vendu en disant, voilà, tout le monde le fait avec des manières de savoir comment c'est construit, et moi je vous fais un bâtiment totalement lisse et on ne saura pas du tout comment il est fait. Voilà je pense, le début de l'histoire. Mais tout ceci, évidemment, n'explique pas comment il a été fait. Alors, je vais garder un peu de suspense dans mon histoire et je vais vous donner quelques indices et je vais vous donner ma solution par rapport à cela. Et comme toujours, la solution, une fois que je vous l'aurai dite, elle vous paraît extrêmement évidente. Alors la question que je me pose et que je vous pose, c'est justement pourquoi on ne l'a pas trouvé. Alors, c'est pas parce que je suis plus malin que les autres, c'est simplement parce que on est embarqué dans des idéologies, et les premières idéologies, c'est de voir dans l'histoire les Égyptiens comme peuple quelque part, même si on est épaté par les réalisations, mais un peuple ancien qui ne pouvait pas avoir les technologies de l'Occident suivante. Bon, vous savez, je crois que à partir de cela, on se trompe déjà, parce que la technique moderne n'en apparaît qu'à la fin du 19e siècle. Donc c'est dans l'échelle de l'histoire, c'est un moment très court. Donc on a ce franchissement juste récent. Mais dans l'histoire, la construction des cathédrales, la construction du canal du Midi, par exemple, qui est construit en 15 ans, qui est un fabuleux et extrêmement complexe ouvrage hydraulique, eh bien, il est construit comme les pyramides, il est construit avec des instruments et la force humaine, et simplement, il y a derrière le génie d'un constructeur, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a un certain mépris pour les civilisations anciennes, et en plus, je pense qu'il y a peut-être un héritage de la pensée marxiste moderne, où on a pensé qu'il y avait évidemment les oppresseurs et sur les opprimés, et toute l'image, c'était des esclaves avec des maîtres qui fouettaient des gens. Donc on avait forcément une force brute, et tout cela devait être fait uniquement en poussant et en levant, on ne sait comment. En fait, on le sait maintenant, par les fouilles récentes, où on a découvert il y a quelques années les villages qui étaient près de la pyramide, et avec des récits et des documents où on avait des ouvriers qui étaient organisés avec leur famille, qui étaient, et ça c'était extraordinaire, qui étaient payés même s'ils étaient accidentés, ou s'ils étaient malades plutôt. Et d'ailleurs, c'est la même chose qu'avait fait Riquet. Il avait créé une sorte de sécurité sociale par rapport au système des journaliers qui était le système général. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait donc des ouvriers bien payés. On le sait qu'ils étaient bien nourris parce qu'on a trouvé tout à fait les restes des repas et autres. Donc, on avait un chantier qui était mené pour être sécurisé, pour donner du travail et donc du bonheur aux gens et de l'emploi. Et donc, on est dans une relation qui n'est pas du tout cette relation d'oppression, mais c'est une relation plutôt d'un chantier qui était, on peut dire, participatif, qui participait à l'économie du pays, à la fois, évidemment, et qui renforçait ce que je vous disais tout à l'heure, le mystère des pharaons. Alors, je vous donnerai ma clé de l'énigme. Je vous donne trois indices pour y réfléchir. C'est: comment a-t-on construit la tour Eiffel? Comment construit-on les gratte-ciels? Et le troisième indice, c'est ce que disait Hérodote, qui évidemment n'est pas un contemporain de l'Égypte, mais qui fait voyager l'Égypte bien après, des siècles après, et qui rapporte que le récit qu'on lui avait donné sur la construction, parce que évidemment le mystère de la pyramide est un mystère pour les Grecs aussi, où le bâtiment avait été construit avec des machines et des plateformes. Voilà, bon, ben, à la semaine prochaine.